en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Solène Robin.
Bonjour, les neurosciences étaient sous le feu des projecteurs lors du troisième colloque sur le cerveau organisé par la FIRN fin 2007 à Paris. Un colloque ouvert au grand public et accueilli cette année par le Palais Brongniart. Jean-Claude Picard, docteur en sciences physiques, a fondé la FIRN, association franco-israélienne de recherche en neurosciences, en 2003, pour valoriser la coopération déjà existante entre les neuroscientifiques français et israéliens et montrer que, par-delà les conflits géopolitiques qui peuvent néanmoins exister, la collaboration scientifique est essentielle, c'est même un vecteur de paix. Après un focus sur la mémoire l'année passée, les neuroscientifiques étaient amenés en 2007 à réfléchir sur l'inconscient, le conscient et la créativité. Un cerveau étudié sous toutes ses coutures par d'éminents chercheurs venus présenter le fruit de leurs recherches et réflexions. Côté français, Jean-Pierre Changeux, président consacré de la première demi-journée, mais également Stanislas Dehaene ou encore Lionel Nakash. Côté israélien, d'éminents représentants de l'université hébraïque de Jérusalem, parmi lesquels Idan Segev ou encore David Shulman. Après une présentation générale de Jean-Claude Picard, c'est donc l'académicien des sciences Jean-Pierre Changeux qui était amené à offrir sa contribution sur l'espace global conscient. Je vous invite à écouter leurs exposés.
Aujourd'hui, nous allons participer à la science de l'inconscient, du conscient et de la créativité. On est bien loin de la notion d'il y a un siècle, un inconscient archaïque, automatique, pauvre. On sait aujourd'hui que notre inconscient est riche, qu'il contient d'innombrables processus, d'innombrables représentations mentales abstraites qui coexistent avec nos pensées et nos représentations conscientes. Ce matin, nous allons apprendre comment et quand ces processus conscients se mobilisent pour monter au niveau de notre conscience. Nous verrons comment la conscience n'est pas localisée dans le cerveau, dans des zones dites intelligentes, et qu'elle est répartie. Nous comprendrons comment les lettres, quand nous lisons un texte, ces lettres sont transformées par notre cerveau en des mots que nous allons comprendre. Nous saurons le rôle de la conscience dans la prise de connaissance de notre environnement spatial, quand nous savons là où nous sommes. Et nous verrons comment notre vision et notre audition peuvent interférer dans le cerveau. Quand on étudie tout ce qui se découvre, tout ce que l'on apprend, toutes ces nouvelles idées, on peut se poser la question, à quoi devons-nous tous ces progrès fulgurants de la compréhension du conscient et de l'inconscient? Eh bien, ces progrès fulgurants, je crois qu'on les doit à la conjonction de plusieurs facteurs. Premier facteur que je citerai, c'est les techniques de l'imagerie cérébrale, type par exemple l'IRM, qui ont énormément progressé, en particulier sur leur capacité à cibler une petite partie de notre cerveau et à donner des mesures dans un temps de plus en plus rapide, ce qui permet d'avoir des enregistrements filmés de ce qui se passe lorsque les scientifiques, les savants, déclenchent des processus inconscients chez les patients qu'ils étudient. Deuxième facteur de progrès, je crois, c'est les tests psychocognitifs qui permettent de déclencher chez les patients faisant l'objet de tests des processus inconscients. Ce n'est pas tout à fait évident parce que si vous expliquez à un patient qu'il doit faire ceci, cela, c'est au niveau de la conscience. Donc, les chercheurs ont mis au point des techniques qui permettent de déclencher les processus inconscients qu'ils veulent étudier. Troisième facteur, c'est la mise au point de modélisations mathématiques et physiques extrêmement sophistiquées qui permettent de simuler le fonctionnement des composantes de notre cerveau. Par exemple, ce que je sais, c'est je crois que c'est Idan Segev qui le fait avec l'Université de Lausanne. Actuellement, vous arrivez à simuler le fonctionnement de 10 000 neurones. Et ce que vous m'avez dit, c'est que l'espoir, c'est dans 10-15 ans, on arrivera à simuler une très grande partie du fonctionnement de notre cerveau. Ce quatrième point, la création de centres multidisciplinaires de recherche sur le cerveau. Mettre ensemble des physiciens, des mathématiciens, des biologistes, des psychologues, des docteurs, des psychiatres, et les faire travailler ensemble est une innovation absolument considérable qui a démarré il y a pas mal d'années et que, par exemple, l'Université hébraïque de Jérusalem a réussi à concrétiser en créant le Centre multidisciplinaire de calcul neuronal dont vous allez écouter durant la journée des représentants. Je dois dire en plus que parmi les intervenants que vous allez écouter aujourd'hui, près de la moitié ont une formation de mathématiciens ou de physiciens. C'est comme ça qu'ils ont démarré leur cursus universitaire. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais avant de passer la place au professeur Changeux, qui va présider la séance de ce matin, professeur Changeux dont les travaux tout au long de ces 40 années ont marqué des avancées marquantes et qui nous fait l'honneur donc d'être là et de présider cette séance. Les minutes de ce colloque seront, comme l'année dernière, publiées. Elles feront l'objet d'un livre dans quelques semaines. Je voudrais remercier tous les membres de l'Université hébraïque de Jérusalem qui ont permis par leur travail l'organisation de ce colloque. Je citerai en particulier Catherine Bellé, Clara Citruc, Yael Mimram, Yoram Cohen, évidemment, et tous les bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui nous ont aidés à faire connaître et à préparer cet événement. Merci beaucoup, Jean-Pierre Changeux. Je te laisse la place.
Merci beaucoup. Je suis particulièrement touché et heureux d'être avec vous aujourd'hui. Les liens que j'ai avec l'Université hébraïque sont multiples. Et je voudrais, pour commencer, rendre hommage à Hermona Sorek, avec qui j'ai pu avoir des collaborations scientifiques pour des 20 dernières années, qui est une de nos meilleures neurochimistes et spécialistes de la biologie moléculaire du cerveau. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, l'objet auquel elle s'intéresse, qui est ici, c'est notre cerveau, 1,4 kg dans notre crâne, composé de cellules nerveuses, les neurones, et de cellules gliales, que vous voyez ici, et qui forment un réseau connexionnel d'une extrême complexité. Il y a environ 80 à 100 milliards de neurones dans notre cerveau, et le nombre de connexions qui s'établissent entre ces cellules nerveuses est de l'ordre de 10 000 fois plus. Et ce réseau est discontinu. En effet, les contacts entre cellules nerveuses s'effectuent au niveau de synapses. Et ces synapses sont soit des synapses électriques, où la transmission se fait par un courant électrique, ou bien des synapses chimiques. Et à ce niveau, la communication s'effectue par des substances chimiques, des neuromédiateurs, qui agissent sur des récepteurs dont on commence à connaître la structure au niveau atomique. Et dans ce réseau nerveux circulent des signaux électriques qui se propagent à une vitesse inférieure à la vitesse du son, que vous pouvez voir ici. Et ces signaux électriques et chimiques peuvent être réduits à une signalisation moléculaire qui est elle-même présente en l'absence de stimulation venant du monde extérieur. Et nos réseaux de neurones cérébraux sont capables d'activités spontanées et susceptibles d'engendrer donc des représentations du monde sans qu'il y ait nécessairement une stimulation venant du monde extérieur. Donc on peut penser, avec le philosophe français que vous connaissez tous, Bachelard, que comme pour la chimie, eh bien on peut étendre cette philosophie et dire que, au fond, nous avons adopté une position qui n'est certes pas une position idéologique, mais une position qui est simplement un constat de fait, celle d'un matérialisme instruit, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne notre cerveau à partir de ses bases moléculaires et chimiques. Notre cerveau n'est pas un tas de sable, mais résulte d'une évolution qui a pris des milliards d'années. Nous avons dans notre cerveau des molécules qui sont des homologues de molécules présentes déjà chez les bactéries, comme ces récepteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et notre cerveau est donc la synthèse de multiples évolutions. Évolution génétique qui a duré des millions d'années, qui a conduit des ancêtres de l'homme à l'Homo sapiens. Évolution ontogénétique qui inclut division cellulaire et mort cellulaire. Et mise en place d'une connectivité qui, elle aussi, est un processus évolutif où l'état d'activité du réseau, spontané ou évoqué par le monde extérieur, conduit à la sélection de synapses au cours du développement. De même, la dynamique de notre pensée, qui est associée avec des changements d'efficacité synaptique très rapides, peut être vue sous l'angle d'une évolution par variation-sélection, ainsi que les évolutions sociales et culturelles, qui sont finalement le produit de ces représentations stabilisées dans des mémoires extracérébrales et qui ont pu être stables pendant des milliers, voire parfois des millions d'années. Le fonctionnement de notre cerveau ne peut se comprendre à partir du niveau moléculaire sans prendre en considération des niveaux d'organisation hiérarchique de la molécule aux neurones, qui est composée exclusivement, bien entendu, de molécules, des neurones aux circuits, des circuits aux ensembles de circuits, et au cours de cette évolution du cerveau et de son développement ontogénétique, ainsi que de l'interaction avec le monde extérieur, peut se produire une vie sociale et culturelle. Aujourd'hui, je focaliserai ce bref exposé pour défendre une neuroscience de la conscience et proposer un modèle qui vous a déjà été présenté, mais peut-être qu'il vaut toujours la peine de le reprendre et de le voir sous ses divers aspects. Modèle de l'espace de travail conscient qui est le fruit d'un travail de collaboration très intense et qui s'est poursuivi pendant de nombreuses années avec Stanislas Dehaene et qui, j'espère, se poursuivra encore, ainsi qu'avec ses collaborateurs Claire Sergent et Lionel Nakache qui sera là, je pense, cet après-midi. D'abord, quelques définitions. Et je commencerai par Baruch Spinoza, que nous aimons tous, et les mystères de la conscience. Spinoza nous a dit une chose qui nous fait méditer. « J'analyserai les actions et les appétits des hommes comme s'il était question de lignes, de plans et de solides », c'est-à-dire une approche scientifique et je dirais même parfois mathématique. Et une autre citation que je poursuis, qui sera celle de la conclusion de cet exposé, « Qu'est-ce que l'éthique, sinon une connaissance intégrale de l'homme et de sa situation dans le monde ?» Et il faut espérer que le travail que nous faisons contribuera à l'émergence d'une éthique au niveau mondial. Qu'est-ce que la conscience ? Une connaissance partagée, si on s'en tient à la définition du mot en latin, une connaissance de soi, une connaissance morale, une connaissance de l'objet par le sujet et la référence de l'objet au sujet lui-même. Bref, une connaissance partagée, qui paraît être une définition que nous accepterons tous. Et Popper a rajouté, et ça va très bien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur ces niveaux hiérarchiques emboîtés, un système de contrôle, d'élimination d'erreurs, le plus haut placé dans la hiérarchie d'organisation d'un organisme supérieur. Emmanuel Kant nous dit aussi que toute unification des représentations exige l'unité de la conscience dans leur synthèse. Et vous verrez que cette notion d'unité de la conscience est une des motivations principales de notre travail sur l'espace de travail conscient. Jean-Baptiste Delamarck, le célèbre fondateur de l'évolution, nous parle d'un sentiment intérieur qui reçoit les émotions. Et on peut proposer qu'il s'agit dans notre cerveau d'un milieu conscient, analogue au milieu intérieur de Claude Bernard. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à la phénoménologie, je ne parlerai pas de Freud, je pense que l'après-midi y sera consacré. L'essence de la conscience est l'intentionnalité. Qu'est-ce qu'une intention, sinon un but qu'on se propose d'atteindre, un dessein ferme et prémédité, un acte de la conscience qui donne un sens aux données sensibles, selon Husserl. Et nous verrons que cet aspect-là des choses peut aussi être approché par les méthodes de la neuroscience. Mais je voudrais tout de suite introduire une nuance importante, c'est que nous, en tant que scientifiques, nous proposons simplement de proposer des modèles du cerveau. Notre but est de représenter un comportement ou un processus mental sur la base d'une architecture minimale mais réaliste, et également de prendre en compte les activités qui circulent dans cette architecture et de les décrire, si possible, en termes mathématiques. Afin d'établir des relations causales entre un comportement spécifique ou même un processus mental subjectif et des mesures neurales objectives qui peuvent être mises à l'épreuve expérimentalement du niveau moléculaire au niveau cognitif, puisque c'est notre approche de partir du niveau, je dirais, physique jusqu'au niveau cognitif, culturel et social. Mais, et j'insiste sur ce point, le meilleur modèle ne donnera jamais, nous le savons, une description complète et exhaustive de la réalité. Il y a eu, au cours des récentes décennies, plusieurs propositions pour une neuroscience de la conscience. Une hypothèse qui était proposée par Edelman et Tononi, celle du dynamique corps, le système séparé de neurones dans le cerveau, est très différente de celle du dynamique corps, puisque pour Edelman, il n'y a pas de localisation particulière de la conscience. Pour Jasper et puis nous-mêmes, nous pensons qu'il y a au contraire des systèmes séparés de neurones dans le cerveau, et on peut citer parmi celles-ci les relations thalamo-corticales ou des enregistrements particuliers d'oscillations dans notre cerveau, comme Crick et Koch l'ont proposé, ou essayer de proposer un modèle qui est fondé sur le travail psychologique de Bernard Barthes, qui, en 1988, a proposé un ouvrage remarquable, justement, sur la psychologie de la conscience. Mais pour commencer, je pense qu'il faut établir deux distinctions fondamentales. Les états de conscience, tels que l'éveil, le sommeil, le rêve, je pense que vous êtes tous réveillés, et que vous n'êtes pas dans un état d'anesthésie générale ou de coma. Je vois vos regards se diriger vers moi, donc à certains égards, je suis satisfait, vous êtes dans un état d'éveil. Et bien entendu, distinguer ces niveaux états de conscience avec le contenu de l'expérience subjective, ce dont on peut rapporter. C'est-à-dire que quand vous m'écoutez, vous regardez l'écran, donc il y a des signaux visuels, vous m'entendez dans les signaux auditifs, vous essayez de me comprendre, donc il y a un accès à un espace sémantique. Et ce que vous allez faire dans la discussion tout à l'heure, c'est peut-être dire « Ah, Changeux nous a dit ça, ça et ça, je n'y crois pas ». En fait, ce que vous allez faire, c'est rapporter une expérience consciente. Et pour commencer donc les états de conscience, et puis nous examinerons le contenu de conscience, état de conscience, je suis particulièrement heureux de citer le travail d'un groupe de Devor qui travaille à l'Université hébraïque de Jérusalem, qui a fait une expérience tout à fait remarquable, puis récemment, où il a injecté dans une région qu'on appelle le tegmentum mésopontin, un anesthésique dérivé du GABA ou du pentobarbital. Et cette injection très localisée plonge l'animal dans une anesthésie générale totale. On connaît aussi les travaux de Damasio et d'autres, où des lésions du tronc cérébral vont entraîner le coma. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il existe donc des neurones spécialisés dans le contrôle des états de conscience et qu'on va donc bien distinguer, à la fois sur le plan fonctionnel et sur le plan neurobiologique, le contrôle des états de conscience du contrôle des contenus de conscience. Alors j'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur l'idée de globalité, d'unité de la conscience. J'ai mentionné Kant et j'ai mentionné aussi le point de vue des phénoménologistes. Et tout ça pour dire que nous avons besoin d'une structure qui puisse donner accès à l'ensemble des représentations qui se trouvent formées dans notre cerveau, sans que toutes soient nécessairement présentes, loin de là, mais de donner accès à cet aspect qu'on peut appeler multimodal de la conscience. Qu'est-ce que l'on va chercher pour ça ? Bon, on peut penser à l'âme, à l'esprit, qui va réunir tout ça. C'est une position très réductionniste, je dis très simpliste, et qui n'explique rien. On peut demander aux physiciens de nous apporter leur expérience avec des ondes électromagnétiques. Le cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur. Alors, qu'est-ce qui reste pour le neurobiologiste? Eh bien, il reste des neurones qui sont susceptibles d'interconnecter entre eux des territoires très éloignés de notre cerveau, cortex cérébral, mais aussi, bien entendu, territoires non corticaux, et je me permets d'insister sur ce point. Ces neurones ont été découverts par Santiago Ramón y Cajal il y a bien des années. Ils sont localisés dans notre cortex, dans cellules pyramidales, dans les couches 2 et 3. Et ce qui est intéressant, c'est que ces neurones sont particulièrement riches dans ce cortex de type 2, ici, que vous voyez, au niveau des couches 2 et 3. Et où ce cortex se trouve-t-il distribué de manière privilégiée? Eh bien, se référant à un vieux travail de Von Economo, qui est un élève de Brodmann, nous le trouvons dans le cortex préfrontal, pariétotemporal, singulaire. Et nous allons voir que c'est à ce niveau-là que se trouve précisément établi un réseau de connexions à longue distance qui avait déjà été proposé par Patricia Goldman-Rakish pour ce que l'on appelle la mémoire de travail. Donc nous avons ici ce que l'on peut appeler un réseau horizontal d'interconnexion qui existe donc. Et notre proposition, c'est de s'en servir comme la base neurale du contenu conscient et de faire en sorte qu'on puisse comprendre l'accès à la conscience comme étant lié à l'accès à ce réseau de signaux venant du monde extérieur en particulier, mais aussi, évidemment, bien entendu, du monde intérieur. Alors, en l'appui de cette idée, évidemment, on peut voir ici que la complexité des dendrites de base, ces cellules pyramidales, va s'accroissant des aires visuelles primaires au cortex préfrontal. Mais surtout, et c'est un point très important sur lequel il faut méditer, c'est que j'ai dit qu'ils étaient très abondants dans le cortex préfrontal, pas uniquement, bien entendu, loin de là, mais très abondants. Ce qui veut dire que si on regarde l'évolution du cortex préfrontal chez les primates, les ancêtres potentiels de l'homme, on voit qu'il y a un accroissement relatif considérable, je dirais explosif, de la surface du cortex préfrontal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la densité relative en neurones possédant des axones à longue distance va s'accroissant. Ce qui veut dire que, évidemment, on s'attend à ce que le contenu conscient aille aussi s'accroissant de ces primates à l'homme et que, comme on le voit ici, cette substance blanche qui caractérise justement les axones à longue distance puisse se développer. Et comme vous le voyez ici, elle se développe d'une manière fulgurante, non linéaire, des primates primitifs jusqu'à l'espèce humaine. Donc, un espace de travail neuronal constitué par ce réseau à longue distance, horizontal, qui va se situer au-dessus d'un ensemble de processeurs non conscients qui vont traiter les signaux venant du monde extérieur, perceptuel, intervenir dans les actions sur le monde par le système moteur et également encoder le soi et les systèmes d'évaluation et d'attention. En effet, cet espace de travail, nous le verrons si j'ai le temps, donne accès évidemment aux émotions qui entrent dans notre espace de travail conscient. Alors, une idée centrale de ce modèle est que nous avons ici un espace où il va y avoir des représentations d'un type particulier qui sont des représentations conscientes qui vont mobiliser ces neurones de l'espace de travail que je viens de définir, mais aussi, évidemment, prendre des informations au niveau des processeurs, ce qui va donner, évidemment, une diversité considérable de représentations conscientes, mais il y aura une représentation à la fois dans cet espace de travail conscient. Il y aura donc à la fois unité et diversité, ce que l'on attend d'une représentation consciente, agissant donc de haut en bas, top-down, alors que l'accès à l'espace de travail conscient se fera de bas en haut. Voilà juste une représentation très schématique de ce modèle pour, je dirais, un peu populariser de l'espace de travail conscient où vous avez pu voir ici les processeurs qui donnent accès à, de manière bas en haut à cet espace de travail neuronal conscient qui lui-même va régler de haut en bas le traitement de ces représentations. Alors, est-ce que ces idées ont quelque chose de vraisemblable? D'abord, je tiens à dire qu'il y a tout un travail qui a été réalisé essentiellement par Stanislas et ses collaborateurs de mathématisation de ce modèle. Et il y a aussi évidemment tout un travail d'expérimentation qui est fait par lui-même et d'autres équipes, et en particulier celle de Loret en Belgique, où il a pu montrer que lors de l'état végétatif, de l'anesthésie générale ou du coma, il y a une diminution d'activité que vous voyez ici en couleur. De quoi ? Eh bien, des neurones qui font partie donc de ce réseau fronto-pariéto-temporal singulaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc cette observation est en accord avec l'espace de travail conscient. Stanislas vous parlera du traitement conscient et non conscient des mots. Voilà pour le traitement conscient, bien entendu, mobilisation du cortex préfrontal et de divers territoires parmi lui, pariéto-temporal, et par comparaison, le traitement non conscient ne mobilise pas ou peu ce circuit de l'espace de travail neuronal. Lire les intentions, puisque ça a été une définition de la conscience auquel tiennent beaucoup les phénoménologistes. Eh bien, il faut lire ce travail de Haynes et collaborateurs avec Chris Fries, qui nous montre un travail tout à fait étonnant et particulièrement remarquable sur cette distinction entre l'intention de faire une division ou une addition, que vous voyez ici en vert, et où se trouve-t-elle dans le cortex préfrontal médian, et en rouge, l'intention pendant l'exécution de la tâche. Donc il y a à la fois intention de faire une tâche et intention dans l'actualisation de la tâche. Et tout cela, évidemment, est en accord avec l'espace de travail neuronal conscient, sans que ça soit nécessairement une démonstration unique. Et pour terminer, je voudrais mentionner quelques applications médicales de cette idée de l'espace de travail neuronal conscient. D'abord, est-ce que le nouveau-né est conscient ? C'est une question fort intéressante. Il n'a pas, évidemment, accès à un espace de travail conscient aussi développé que l'adulte. Son contenu de conscience est certainement beaucoup moins complexe et élaboré que celui de l'adulte. Entre autres, il n'a pas une connaissance du soi aussi élaborée que l'enfant de 15 mois, qui commence à ce moment-là à répondre aux tests du miroir. Mais il existe des connexions myélinisées à longue distance qui ont été mise en évidence par le groupe de Le Bihan, Neurospin, en France. Et donc, il y a un accès, mais évidemment, à un niveau beaucoup moins élaboré que celui de l'adulte chez le nouveau-né. Et je voudrais juste donner deux applications médicales en début de vie et en fin de vie. Début de vie, nous venons de voir qu'il existe des prédispositions possibles pour un accès rudimentaire à la conscience chez le nouveau-né. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de l'autisme, à l'Institut Pasteur, Thomas Bourgeron a identifié les premiers gènes qui entraînent l'autisme chez l'enfant, avec une interaction sociale altérée, une cohérence centrale faible, mais un traitement local élevé, c'est-à-dire que sur le plan sensoriel et moteur, ce sont des enfants qui sont même parfois exceptionnellement doués par rapport aux enfants normaux du même âge. Et si on regarde l'imagerie cérébrale, on se rend compte que, évidemment, l'espace de travail neuronal est ici activé chez le sujet normal, alors que chez l'enfant autiste, il l'est beaucoup moins. Donc, la proposition que nous avons faite avec Swedelstein il y a quelques années déjà, c'est que peut-être que les neurones à axone long sont sélectivement altérés par les mutations. Pourquoi ? Parce que tenir un axone long pour un soma neuronal demande énergie, demande flux axonal, demande des moyens qui sont supérieurs à ceux que des neurones à axone court peuvent développer. Donc une hypothèse qui reste à tester. Autre cas, celui des fins de vie, des démences du lobe frontal, qui est une forme génétique en quelque sorte d'une maladie proche mais non identique à la maladie d'Alzheimer, qui est liée à des mutations sur les gènes de la protéine Tau. Et vous voyez une dégénérescence sélective de quoi ? Eh bien des neurones pyramidaux des couches 2 et 3, qui sont celles que nous avons postulées comme étant essentielles pour le développement d'espaces de travail neuronal conscient, et vous voyez que ces démences s'accompagnent d'une apathie, d'une désinhibition, d'une perte du contact social, bref, d'une altération considérable de l'espace de travail conscient. Enfin, juste un mot pour la vie sociale. Les travaux d'imagerie cérébrale permettent à la fois d'enregistrer des images chez le sujet qui souffre lorsqu'il est stimulé lui-même par des stimuli entraînants douloureux, mais aussi de se représenter ce qu'un partenaire qu'il aime ou qu'il estime peut ressentir lorsque lui-même souffre. C'est-à-dire qu'ici, on compare ce que le sujet ressent lorsqu'il est stimulé douloureusement et lorsqu'il voit une personne qui, elle, est stimulée douloureusement, alors lui qui ne l'est pas. Eh bien, il y a des images communes entre soi et l'autre. Et bien entendu, comme vous pouvez le voir ici, ce sont encore des territoires de l'espace de travail neuronal conscient qui interviennent. Je ne veux pas non plus insister trop sur ces travaux qui sont en cours, mais je pense que l'avenir sera mieux comprendre les relations entre individus, entre personnes capables, pour employer le terme de Paul Ricoeur, et d'essayer d'aborder une neuroscience de la compréhension mutuelle. En conclusion, Karl Popper nous a parlé de la conscience comme système de contrôle d'élimination d'erreurs. C'est tout à fait en accord avec l'hypothèse de l'espace de travail conscient. L'unité de la conscience, je n'y reviens pas. L'intentionnalité, vous avez vu des images préliminaires. Les multiples applications médicales sont illustrées par deux cas. On pourrait en trouver beaucoup d'autres, comme la schizophrénie. Et pour conclure, je citerai à nouveau cette phrase de Spinoza. Qu'est-ce que l'éthique ? Une connaissance intégrale de l'homme et de sa situation dans le monde. Et peut-être que c'est un vœu que je fais, mieux comprendre le cerveau pour plus de paix dans le monde. Je vous remercie.
Nous avons quelques minutes pour les questions-réponses.
Bonjour, monsieur. Vous avez dit tout à fait au début, l'évolution phylogénétique du cerveau des primates aboutit au cerveau des hominiens dont nous sommes les représentants, pour l'instant, le sommet de la chaîne. Vous avez aussi parlé d'évolution sélective et de stabilisation sélective.
De synapses. Oui.
Des synapses. La sélection synaptique, la sélection neuronale,
oui.
Est-elle un phénomène réversible? Alors, je sais bien que ça implique la théorie du temps, la physique, la notion d'entropie. Est-ce que ces stabilisations qui sont d'origine chimique aussi, neurochimique, peuvent être dans certains cas réversibles? Parce que vous nous avez parlé de ce processus comme de quelque chose qui est orienté, de même que vous nous évoquez l'intentionnalité, et donc on serait toujours dans un monde orienté temporellement, intentionnellement, évolutivement. Est-ce que cette stabilisation et cette sélectivité totalement irréversible?
C'est une question, je vous remercie beaucoup pour cette question, c'est une question extrêmement importante sur le plan à la fois conceptuel et sur le plan pratique, puis entre autres avec des applications médicales très nombreuses. Évidemment, l'implication, ce n'était pas le sujet de cette conférence, mais l'implication de la stabilisation sélective des synapses principales, c'est évidemment l'éducation. Comme vous le savez, il y a des aspects réversibles et d'autres qui ne le sont pas. Je cite un exemple, dans le cas du langage, l'accent. Eh bien, il se trouve que l'accent est très peu réversible. C'est-à-dire qu'il y a chez le sujet adulte une distinction entre la langue apprise dans son environnement familial et celle qu'il a pu acquérir après. Donc, à titre d'exemple, on ne retrouve pas pour la plupart, évidemment, il y a de notables exceptions, mais on ne retrouve pas, avec un langage appris après la puberté, l'aisance que l'on a avec le langage appris auprès de son environnement familial. C'est un exemple. Et je pense que pour les mémoires à long terme, parce que c'est évidemment un thème important, ça me paraît très difficile de réorganiser, de restructurer des mémoires à long terme. Comme vous le savez, lorsqu'il y a dégradation par Alzheimer, etc., on retourne aux mémoires à plus long terme qui existaient au niveau de l'enfant ou de l'adolescent. Donc, ça me paraît très difficile de les modifier. C'est pour ça que j'ai parfois des doutes sur la psychanalyse à cet égard. Mais par contre, ce qui est évidemment possible, c'est qu'il y ait une superposition de nouvelles mémoires aux mémoires anciennes et que ce soit elles qui, en fait, interviennent dans l'accès à la conscience, si j'ose dire. Et on peut voir un peu notre cerveau comme un palimpseste sur lequel il y a des mémoires qui se trouvent superposées et emboîtées les unes dans les autres. Et les mémoires peut-être les plus récentes auront, il faut espérer, un effet plus important que les mémoires les plus anciennes. Mais là, on tombe dans un domaine qui est très spéculatif d'abord, mais sur lequel une expérimentation est en cours, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui se font sur justement les relations entre mémoire à court terme et mémoire à long terme.
Alexandre Alphand, je suis expert en détection des fraudes juridiques, fiscales et financières. Oui. C'est très intéressant. Il faut savoir que le chef d'orchestre étant l'hypothalamus et la baguette du chef d'orchestre étant l'hypophyse. Donc il y a une question de rapport entre les deux et surtout ce mot, c'est l'éthique.
Oui.
Or il faut savoir qu'il y a plus de 2000 ans, plus de 75% de la population, c'est dans la Gemara, dans le Talmud, était menteur, fraudeur, voleur. 25%, il y avait des problèmes avec les femmes, et 100% donc était la mauvaise langue, c'est ce qu'on appelle le Lashon Hara. Alors je voudrais savoir si aujourd'hui notre cerveau comporte un cœur et si notre cœur comporte un cerveau.
Je pense que j'ai saisi la question. Vous savez que Pascal a déjà réfléchi à ça, puisqu'il nous a dit à tous le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Mais le cœur auquel pensait Pascal est situé dans le cerveau, il n'est pas situé dans le cœur. Ça veut dire que, pour répondre au fond de votre question, c'est la relation entre émotion et raison. Les travaux actuellement en cours dans ce domaine sont très nombreux. J'ai montré le cas d'une expérience faite, entre autres, par les groupes anglais de Chris Fritz et les collaborateurs sur ce sujet-là. Damasio a aussi mentionné cet aspect. Pour lui, comme pour nous, avec Stanislas, nous avons depuis des années proposé qu'il y a une relation entre les systèmes de récompense et l'apprentissage. Donc, les choix dits « rationnels », entre guillemets, peuvent être guidés par nos systèmes de récompense et notre système émotionnel. Donc, il y a une interaction considérable entre les deux. Et je dois dire que ça m'amène, peut-être pour conclure, parce que je crois qu'il ne faut pas abuser du temps, à la définition de la science. Qu'est-ce que la science, par rapport à tout ce que nous venons de dire? Bien, justement, c'est une manière d'accéder à une certaine forme d'accord universel en dépit des opinions, en dépit des émotions, en dépit des appartenances culturelles à travers l'univers. Et à mon avis, c'est, de mon point de vue, la seule activité humaine qui a accès à cet universalisme. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a non seulement des cerveaux individuels, mais aussi, surtout, parce qu'il y a une communauté scientifique. Et la communauté scientifique, justement, permet de corriger les erreurs d'un cerveau particulier à un autre par un accord entre scientifiques, qui est parfois très difficile d'obtenir, d'ailleurs, ce qui fait que la science va, vient. Mais un de ses traits les plus importants, c'est qu'elle progresse en permanence et nous en voyons, il faut espérer, les effets bénéfiques chaque jour.
Une dernière question.
Rachel Cohen. Vous avez touché un petit peu les réponses à la question que je veux vous poser. Est-ce que vos travaux nous donnent des conséquences sur l'éducation des très jeunes enfants?
Bien, je pense que cet aspect est évidemment extrêmement important. Pour ma part, je pense que l'éducation est essentielle dans la constitution de l'adulte. Enfin, je pense que je ne suis pas le seul à avoir cette opinion ici. Mais il est évident que c'est un point majeur. Et je dirais qu'il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. L'aspect positif, évidemment, c'est que lorsque l'éducation est adaptée à l'enfant et lui permet de progresser et de constituer un adulte plus équilibré, à même à comprendre le monde dans lequel il vit. Mais un des aspects que je considère personnellement comme difficile, c'est qu'il va recevoir l'empreinte de l'environnement culturel, social et religieux dans lequel, et philosophique, je n'oublie pas le terme philosophique, dans lequel il va se trouver plongé, et de ce fait, à la suite de l'éducation, des clivages culturels et des antagonismes peuvent se produire, et nous savons toutes les difficultés que ça représente aujourd'hui.
Vous venez d'entendre la communication de Jean-Pierre Changeux sur l'état global conscient. Je rappelle que Jean-Pierre Changeux était invité à s'exprimer lors du troisième colloque sur le cerveau organisé par l'AFIRN, association franco-israélienne de recherche en neurosciences. L'exposé de Jean-Pierre Changeux ne fait que renforcer un point mis en exergue par l'ensemble des neuroscientifiques. La recherche en neurosciences repose de plus en plus sur une alliance entre de très nombreuses disciplines. Mathématiques et physique ont la part belle, entre autres, mais les sciences dites humaines, psychologie et philosophie en tête ne sont plus mises au ban, bien au contraire. Après cette première intervention, nous vous proposons de continuer le voyage à travers le cerveau en écoutant la deuxième intervention de ce colloque, en anglais, mais néanmoins très accessible. Elle est disponible en libre téléchargement dans notre médiathèque. Idan Segev présente un bilan de la recherche sur le cerveau et son avenir. Permettra-t-elle de toucher le mystérieux comme il le dit lui-même? Vous pouvez en savoir davantage en écoutant « Into the Future of Brain Research Touching the Mysterious ». Les minutes de ce colloque, je le rappelle, sont à paraître aux éditions du manuscrit. À bientôt.